à la fois la molécule la plus diluée qui va vers l'abîme et la molécule la plus concentrée qui va vers la présence du corps humain, qui sera véhicule de lumière. Et effectivement, la limite de Tohu, c'est Tehom, l'abîme. La limite de Bohu, c'est Behom, qui donnera le mot Behema, c'est-à-dire la chair la plus concentrée. Okay. C'est clair? Alors, vous voyez, en tout cas, on aura à reprendre tout cela, qu'il y a la même notion que Neetzalim et Nibraïm. Les Nibraïm sont donnés au Tehom, c'est le Keli. Si ils se laissent au roi de la nature, eh bien, ils vont vers l'involution. Tandis que les Neetzalim, c'est le Or, c'est le Bohu. En lui, il y a lui. Et bien sûr, lui, c'est lui. Réfléchissez bien. Et nous verrons la descente dans ces quatre mondes, à quel moment le Tzimtzum opère, ça devient nature, c'est le monde de l'acte, okay, qui est soumis aux lois. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux premiers et les deux derniers? Là, je dis qu'il y a un massacre. Okay. Et pourquoi notre texte, comme vous l'avez indiqué, a parlé des deux premiers? Parce que, en réalité, le Tzimtzum semble ne jouer qu'à partir des deux derniers, et donc il y aurait... Vous voyez que tout est dans les textes, tout ce que vous avez dit, c'est dans les textes. Seulement, il faut le traduire en clair. Mais j'insiste sur tout ceci, c'est qu'en hébreu, c'est d'une simplicité à faire peur.
Ça ressemble à une pulsation, mais on peut envisager, dans le cas du retour, quelque chose qui serait identique au Tzimtzum, mais alors, ça s'inverse, le Vak devient Yud. Comment est-ce qu'on peut imaginer que d'ici 1000 ans, on va retourner en Yud?
Écoutez, j'ai souvent l'habitude de répéter cela que j'ai entendu de mon maître, le Rav Kook Zichron Lebracha, le fils de celui du texte. Et quand je lui avais posé cette question à propos de la guerre des six jours, quand on est rentré à Jérusalem, et alors je lui avais dit et pourquoi nous tous ces grands d'Israël qui, à travers les millénaires précédents, le sixième, étaient si grands et espéraient cela, et puis ça nous arrive à nous, des tout petits microbes. Et alors, il a répondu à deux niveaux, parce que la question avait aussi deux niveaux. Parce qu'on connaissait la date. C'est-à-dire, les commentateurs de la Kabbalah connaissaient la date de l'entrée de l'armée d'Israël à Jérusalem. Donc, les plus étonnés étaient ceux qui la connaissaient, parce que ceux qui la connaissaient pas étaient simplement étonnés que ça arrive. Et alors, la question était vraiment, y a-t-il une liberté dans l'histoire des 6000 ans, okay? Et puis, deuxièmement, pourquoi c'est nous? Il a répondu d'abord, et c'est là l'essentiel de ma réponse à votre question, par une image, et qui m'a beaucoup... je crois que c'est une réponse très claire, bien qu'il a tenu à le dire sous forme d'image. Il a dit, voilà, si vous entendez qu'une femme est enceinte, d'abord vous dites Mazal Tov, bien sûr. Et si tout se passe bien, il y a un enfant de 9 mois, alors où est la liberté? Non, c'est ça la prophétie. C'est de connaître les conditionnements du temps, comme les savants des sciences de l'espace connaissent les conditionnements de l'espace. Alors, le miracle, c'est si ça se passe bien. Okay. Bon, on était quand même au rendez-vous. Et puis, à la deuxième réponse, il a répondu, nous posons la question parce que nous ne savons pas qui nous sommes, tout simplement. Si nous savions qui nous sommes, nous comprendrions pourquoi c'est nous. Et un jour, il a dit, et j'ai relié moi-même ces deux notions, il a dit, nous sommes les derniers des derniers, ça veut dire aucun mérite, et les premiers des premiers, tous les mérites. Il a dit comme ça, nous sommes les derniers des Juifs de l'exil et les premiers Hébreux d'Israël. Alors que c'est peut-être pour ça que c'est à nous que c'est arrivé. Vous avez un peu compris qu'est-ce qu'il a dit.
S'il vous plaît, est-ce que cette notion de Tohu Vavahou, je vais essayer de m'exprimer clairement, est-ce qu'elle peut être rattachée avec ce mouvement d'expansion puis de retour?
Oui.
Est-ce qu'on peut...
Une minute, je dis, ça veut dire que même dans Tohu, il y aura ce rythme, et dans Bohu aussi. Mais à la limite, ce sont deux pôles que je vous ai appelé dans l'étude nature et morale. L'une va à la détermination totale et l'autre va à la liberté totale. En lui et lui, c'est la liberté totale. Mais l'égarement, c'est...
Ce que je voulais vous dire, et peut-être, je ne sais pas, complètement différent, c'est que dans les théories scientifiques actuellement, à partir du point de création, il y a expansion, puis il y a, à partir de l'énergie, de plus en plus de poids de matière. Puis à partir du moment où la matière devient lourde, plus lourd que l'énergie, il y a retour et reconcentration au point d'énergie.
Oui, tout ceci se passe dans le monde du Tohu lui-même. Et le Bohu, c'est une autre essence d'être, parce qu'il y a là personne, conscience, représentation, qualité, liberté, moralité, valeur, ce qu'il n'y a pas dans le monde de l'objet des sciences. Et tout ce que vous avez dit, me semble, est adoptable, adaptable, mais tout cela dans le Tohu lui-même, qui a sa propre histoire. Et c'est pourquoi le Sefer HaVahir insiste. Qu'est-ce que ça veut dire Bohu? Bohu. Et Hu, c'est lui, le créateur. Parce que, en fin de compte, notre objet, c'est d'arriver à expliquer notre monde. Et bien sûr, en faisant la science, nous sommes le sujet de la science, c'est-à-dire le sujet de l'étude. Et nous mettons entre parenthèses le fait que le mystère, c'est que nous faisons la science, nous sommes conscients, personne, donnés à des problèmes de valeur. Et que nous nous traitons du monde comme s'il n'était que l'impersonnel. Et alors, je voudrais ajouter quelque chose qui me revient à un souvenir de ma classe de philosophie. J'avais un maître qui était un philosophe compétent, d'ailleurs, comme professeur aussi, qui était matérialiste. Alors, quand nous traitions de la zoologie et dans la classification des sciences, il avait l'habitude de nous dire c'est parce que l'homme fait la zoologie qu'il s'est mis en tête. Mais si c'était le cheval, encore lui, le cheval qui faisait la zoologie mettrait le cheval en tête. Et alors, moi, je sortais du Talmud Torah, enfant, en classe de philosophie, qu'est-ce qu'on avait, je pouvais avoir 17 ans. Okay. Naïvement, je me dis, mais oui, mais c'est l'homme qui fait la zoologie, c'est pas par hasard. Il m'a pas répondu, mais vous comprenez. Et je me rappelle d'une autre image, en cours de littérature, qui ont traité de poèmes hindous. Il y avait un très beau poème que le professeur avait rattaché au problème de la liberté, d'ailleurs, en nous citant Spinoza, une fois de plus. Le poème disait, c'est une belle phrase, mais je ne me rappellerai plus quel est l'auteur, mais c'est un nom en gore. Pythagore, c'était plus compliqué. Et alors, il disait, je ne voudrais pas être comme une pierre qui tombe dans le néant sans être sans accrocher quelque part une étincelle de lumière. Très joli d'ailleurs. Et alors, il nous disait, ben voilà, une image de Spinoza, si la pierre, en tombant, avait un éclair de conscience, elle dirait, je suis libre de tomber. Et alors, je lui avais dit, oui, mais la pierre n'a jamais d'éclair de conscience. Voilà à peu près le même problème. C'est-à-dire que notre texte va traiter de cela. Il y a dans notre monde une antinomie. L'objet et le sujet. Alors, l'objet, ça c'est le monde du Tohu, mais le sujet, c'est le monde du beau. D'où l'intitulé, encore une fois, Nature et mémoire. Et morale, je ne sais pas pourquoi je dis mémoire, ça doit être encore le poisé alter. Mais. Non, c'était une idée de poids. Encore une fois, au bout d'un long temps d'effort de réflexion, on s'aperçoit à quel point on a handicapé la tradition juive de fausses questions, parce qu'elle ne se pose ces questions que dans l'univers de la philosophie et pas dans le discours public, et qu'il faut le relire en hébreu. Bien, vous avez encore la parole pour 10 minutes.
Pardon.
Pas encore, je ne vous ai dit pas aujourd'hui.
Une petite question. Tu parles de morale. Quand tu parlais avec Patin Chouchna l'autre jour, tu mettais le mot morale en hébreu, ça ne voulait rien dire.
Attention. Dans tous les cas, jamais de nom. Jamais de nom. Vous comprenez ce que je veux dire. Parce que, comme moi, je ne l'ai pas entendu, je ne sais pas à qui je réponds. Effectivement, si, je le dirais à ma manière, pas à la sienne, bien entendu. Si par morale on entend l'éthique, ça veut dire la science de la morale, ou la philosophie de la morale, ou la contemplation de la morale, ça ne fait pas partie de la pensée juive. Et comme je vous avais dit, le vocabulaire que nous employons est handicapé par énormément d'histoire du sens des mots, on ne sait jamais dans quel sens on les emploie. Le mot moral, moussar, en hébreu, signifie l'effort moral, la sèse morale, les yatser. Avec ça marche les yasser, okay. Nous avons un tout autre terme pour dire morale, c'est le derechet. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est peut-être à ça qu'il pensait. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, sur le cours, vous avez encore une précision ? Émile. Ma ? Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre sur Terre.
Tout au début, dans les définitions encore, quand on disait de parler des Netzalim, c'était Yesh ou Yesh.
Oui.
Les Nivraïm, Yesh Me'aïm.
Oui.
Les Nivraïm possèdent des Netzalim, il y a un processus de Ishtalshelut.
Certaines chitotes très récentes parlent comme ça, en particulier le Sefer HaDe'a. C'est une chita des descendants des élèves du Gondovina qui ont une certaine réticence à admettre cette catégorisation de Tohu Bohu, que dans le Bohu, le Kava Yosher, il est présent, okay, d'une certaine manière. Mais.
Je vais terminer ma question.
Oui, monsieur.
Et le problème, si j'admets qu'il y a un processus de Yitzhak Shelou du Nivra à partir du Neetzal, où est la place du Haïm? Quel est le Yesh, on comprend.
Ah, tu veux dire, le Yesh.
Comment procède-t-il du Yesh?
Oui. Ça, on n'a pas encore étudié aujourd'hui. Okay. J'ai parlé simplement de néantisation. Mais la Kabbalah dit Tzimtzum. Le Yesh se retire de lui-même, apparaît le Makom Panoui.
Oui, mais le Tzimtzum dont parle le Ezraïm, c'est un Tzimtzum qui est antérieur, enfin, disons pas chronologiquement, mais logiquement, antérieur à la Tzilut, à la Bria, à la Yitzira, à la Asiya, sans le titre du texte.
Oui, mais nous verrons qu'il n'opère qu'au niveau de Asiya. Ça, nous le verrons après, dans son texte à lui, dans celui-là, dans ce texte-là. Il y a les quatre madrigaux du Tzimtzum, et le Tzimtzum n'est vraiment Tzimtzum que dans Asiya. Et tout ça, nous l'utiliserons dans les autres cours, mais attends, il y avait quelque chose que je voulais dire qui m'a échappé momentanément, mais qui était important. C'est...
tu parlais du Sefer HaDe'a, de la...
Oui, oui. C'est, depuis l'arrêt de la prophétie, une crainte de toute une tendance des écoles kabbalistes, une crainte de la magie. Alors, étant donné que la prophétie s'est arrêtée, interdiction de parler du Bohu dans notre monde d'en bas, parce que la prophétie s'est arrêtée. Et alors, comme on ne sait jamais qu'est-ce que chacun qui entend parler de ça va mettre dedans, ça risque d'être, par exemple, Madame Amadou Valensi, qui, comme vous le savez, d'autre part est psychologue, insiste beaucoup là-dessus, il faut bien faire attention à ne pas trouver des signes de n'importe quoi partout. Okay. Par exemple, le comportement magique qui consiste à dire « Le Messie est sûrement né puisque j'ai rencontré une pâquerette à cinq branches. » Des choses de chacun. Et comme je sais que le monde juif est encombré de cela, on comprend cette réaction des mitnagdim. Là, il s'agit de la Kabbalah des mitnagdim. Okay. Qui a eu très peur de cela. Alors ça finit par être outré. Okay. Et on parle de Ishtal Shelut seulement. Alors qu'il y a un chidouche d'amour entre Beria et Atzilut. Et qu'on appelle chidouche Aolam, qui n'est pas Bria Aolam.
Et c'est ce Haïm qui est l'interstice entre l'un et l'autre.
Bah, mais que dans Haïm, bon, ça c'est les chassidim qui ont insisté là-dessus. Okay.
D'après la première chita, il y a un problème.
C'est un problème.
Le problème reste.
Oui. D'après la première chita, c'est le problème. Ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque qu'il y ait une lecture athée de ces choses-là, par peur de la magie. Et. Très souvent, le risque à opérer, d'ailleurs.
La notion de vérité, vous pouvez éclairer un peu, qu'est-ce que vous voulez
changer un peu de terme pour vous aider un peu, quoi que ce soit pas un terme hébreu, parfait, le parfait, la vérité est parfaite, la réalité est pleine de défauts. Alors c'est ces défauts qu'il faut restaurer pour que la réalité et la vérité s'unifient, c'est le verset que je vous avais cité. Vous savez, je l'avais dit une fois, après c'est à vous. Il y a deux définitions possibles de ce qu'on appelle la mystique. Soit faire descendre en bas le monde d'en haut, soit faire monter en haut le monde d'en bas. Les deux sont vrais. Mais en dominante, la tradition juive a préféré la première, faire descendre en bas le monde d'en haut. Et pour une raison logique de base, c'est que c'est bien ça que le Créateur voulait puisqu'il a créé le monde d'en bas. Est-ce que c'est clair ? Il n'y a plus de micro. Il est tombé. Yes. Vous avez la parole et on s'arrête là. C'est vrai, dans le Midrash, très très souvent. C'est juste. Oui, c'est juste. Non, je ne citez jamais de nom.
Excusez-moi.
Bon, je ne sais pas qui j'ai félicité, mais c'était des félicitations. D'accord, j'ai entendu. Une minute, David.
Ah, pardon.
Attends, d'abord la première, je risque d'oublier. Et donc, le problème sous-jacent, c'est celui de la multiplicité.
Auquel j'ai... La multiplicité est liée au tri, alors que...
Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Alors voilà, ce que nous allons voir, c'est qu'à chaque niveau, il y a aussi le clivage des autres niveaux intérieurs à chaque niveau. C'est-à-dire, le monde de Hatzilut a lui-même 5 mondes, de même que Briavère. Chacun des 5 est en lui-même 5 à l'infini. Nous verrons qu'il y a un troisième infini qui apparaît entre l'infini d'en haut et l'infini d'en bas. Et c'est donc le pluriel est justifié. Et retenez le verset Hashem Hu Elokim. Donc dans le Shoresh, Hashem Hu Elokim.
La notion de brisure des vases, je vais attaquer une souci. Où dans cette...
Après. Mardi matin. Vous avez là. Attendez, c'est d'abord madame. Ah, ça y est, vous avez demandé auquel but. Je l'ai indiqué, ces mêmes 5 niveaux se retrouvent dans ce que nous appelons l'âme, et Nefesh pour Neshama, et dans Asiya de Neshama, etc. Okay. Et vous allez voir à la fin à quel point c'est simple. Et souvent mes maîtres m'ont enseigné cela, je vous garantis qu'il faut apprendre énormément de choses compliquées pour arriver à comprendre les choses simples. Bien, alors vous en rendez-vous demain matin à 11h. Bessette.
Il y a un rapport entre la Kabbalah et le signe du zodiaque, c'est un autre sujet.
Il y a aussi un rapport, mais ce n'est pas notre sujet. Là. Oh.